Ciné Plus, Béatrice Malige.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Mais vous aimez le cinéma et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous sommes 4 décembre et je vais vous parler de quelqu'un qui est né un 4 décembre et actuellement on en parle beaucoup parce que son gendre a écrit un livre formidable sur les derniers jours de Gérard Philippe. Donc je vous parle de Gérard Philippe qui est un Cannois qui est né en 1922, un 4 décembre donc, et qui est mort exactement il y a 60 ans, un 25 novembre 59, voilà. Et donc Gérard Philippe, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a eu presque le succès d'un James Dean. Peut-être que les nouvelles générations n'ont plus entendu parler de Gérard Philippe. Eh ben justement, je suis là pour en parler, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors Gérard Philippe, eh bien, il était issu d'une famille, son père était avocat, donc vous voyez, on est déjà dans un niveau intéressant, mais bon, en même temps, c'était la guerre, ils sont venus habiter à Cannes, c'est là que sa mère, qui était très étrange, semble-t-il, elle aimait bien la voyance, le spiritisme, elle avait rencontré Marc Allégret, et c'est un peu comme ça qu'il est rentré un peu dans le cinéma, qu'il a été intéressé par ça, puisque très vite, en 42, donc il avait à peine 20 ans, il va débuter sur les planches à Nice, d'ailleurs il n'est pas le seul à avoir commencé des études de théâtre, au conservatoire de Nice, et il commence dans une pièce qui s'intitulait Une grande fille toute simple. Voilà, et puis, alors entre parenthèses, Philippe, c'est son nom, mais initialement, ça s'écrivait sans le E de la fin. Il a rajouté le E, alors je suppose que c'est sa mère qui a dû le lui suggérer, parce qu'il voulait absolument que toutes les lettres entre son prénom et son nom soient au nombre de 13, parce qu'il paraît que ça portait bonheur. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle à Philippe, il a rajouté le petit E. Enfin, ceci est une anecdote, évidemment, mais c'est toujours très amusant à noter. Alors, en 1943, parce que bon, la France libre est occupée par les Allemands, les voilà qui remontent à Paris, et il va très vite enchaîner des films, des pièces de théâtre, voilà. Donc c'est un acteur, il faut le reconnaître, très vite on s'en rend compte, très surdoué. Il connaît un succès immédiat dans une pièce de Jean Giraudoux, qui s'appelait Sodome et Gomorre. Il va ensuite jouer le magnifique Caligula de Albert Camus, et puis ensuite au cinéma, il sera le Diable au corps, enfin il jouera dans le Diable au corps de Claude Autant-Lara, nous sommes en 1947 avec Micheline Prel, et donc c'est quand même quelqu'un qui, au-delà de ce talent de comédien, il va s'engager politiquement puisqu'il va rentrer dans le Parti communiste, et il va il va travailler de concert, si je puis dire, à partir de 1951 avec Jean Villard au TNP, le Théâtre National Populaire. Donc ça, évidemment, Jean Villard est extrêmement lié à Gérard Philippe, et j'ai envie de dire Gérard Philippe est lié à Jean Villard, évidemment. Et là, c'est là qu'il crée le Festival d'Avignon, tout le monde a entendu parler de ce Festival d'Avignon, et cet été-là, donc nous sommes en 1951, Gérard Philippe a 28 ans, et il joue le Prince de Hombourg, et aussi le Cid. Alors là, je crois qu'on est obligé quand même, parce que le rôle du Cid, de Corneille, ça reste vraisemblablement le rôle le plus emblématique, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, etc., etc. Et surtout les stances. Moi, je me souviens, enfant, on avait eu en cadeau d'ailleurs une espèce de petit disque en plastique mais mou quoi, c'était même pas, et dessus il y avait les stances de Gérard Philippe, et moi qui adorais déjà le théâtre comme ça mine de rien, je me souviens que je disais toujours les stances, mais sur le ton de Gérard Philippe qui est pourtant inimitable, percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle, je demeure immobile. Mais écoutez, le mieux je crois que c'est Yvon, va écouter tout de suite plutôt Gérard Philippe dans sa propre œuvre. Stéphane, si tu en es d'accord, on écoute Gérard Philippe.
Corneille, le Cid, percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu, l'étrange peine, en cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rudes combats. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini.
Voilà, donc vous venez d'entendre évidemment la voix inimitable de Gérard Philipe. C'est marrant parce que quand je dis inimitable, oui, parce que je trouve qu'il disait un peu faux. Voilà, il y avait une espèce de phrasé qui lui était particulier. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, on voulait pas toujours faire du réel, on était dans quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. On va pas comparer, mais enfin, vous avez aussi des types comme Louis Jouvet, qui avait comment, mais vous avez dit, je vous assure, mon cher cousin, vous avez dit bizarre, mais je vous assure, etc. Et tout le monde, ils avaient tous une façon de parler qui n'appartenait qu'à eux. On n'était pas dans le réalisme de la petite vendeuse de Prise Unique, quoi. Vous voyez, c'était tout à fait extraordinaire, quoi. Et en même temps, c'était ce qui était amusant et plaisant et séduisant, évidemment. Alors donc, voilà, ça c'était l'homme de théâtre, le Cid, donc, bien évidemment. Et quand je vous disais qu'il avait fait aussi du cinéma, là où vraiment Gérard Philipe a explosé et que tout le monde l'a connu, et il a été une fan, plutôt il a eu des fans d'une façon absolue, c'est en 1952, parce qu'il va jouer dans un film de KPDP, signé Christian Jacques, c'est Fanfan la Tulipe, et il était avec Gina Lollobrigida. Alors Gina Lollobrigida, qui était vraiment une comédienne extraordinaire, d'une beauté foudroyante, alors évidemment tout le monde ça faisait rire parce qu'elle parlait un tout petit peu français. Elle a dit oui, alors mon metteur en scène, alors évidemment, comme il y avait aussitôt un gros plan sur en effet son balcon, voilà, donc voilà, c'était tout ça était tout à fait charmant, et à l'époque on osait faire des trucs qui étaient sans conséquences et tellement sympathiques, voilà. Donc d'ailleurs, entre parenthèses, puisque je vous parlais de l'homme Gérard Philipe en tant que comédien de théâtre, je vous disais à l'instant aussi, puisque vous l'avez entendu, il était vraiment le Cid, il n'y a pas eu d'autre Cid après lui, quoi, c'était le Cid. Il est d'ailleurs enterré à Ramatuelle, dans le cimetière de Ramatuelle, avec son costume de Rodrigue, hein, voilà. Parce que le Ramatuelle, c'était là qu'ils avaient leur maison de campagne. Alors, donc, c'est un personnage qui, surtout avec Fanfan la Tulipe, a été un symbole de la jeunesse et du romantisme. Il était Octave, notamment dans les pièces de Musset. C'est lui qui faisait, il a fait aussi Perdicant. C'est lui qui, Ruy Blas aussi, Ruy Blas, formidable, de Victor Hugo. Bon appétit, messieurs, ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir. Serviteur qui pillait la maison dont vous n'avez pas, etc., etc. Je veux dire, là aussi, certainement mieux que moi, bien évidemment. Donc, Lorenzaccio, enfin voilà. Donc c'est ça, c'était à la fois la jeunesse et le romantisme. Et donc, avec des textes formidables, évidemment. Et donc, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, pour ceux qui... Bon, je parle pas des gens qui ne savent rien, ça, c'est, le problème est réglé. Mais pour ceux qui ont entendu parler de Gérard Philipe, tout le monde se souvient, résonne encore dans leurs oreilles, je veux dire, le timbre de voix de Gérard Philipe, voilà. Donc c'était un petit hommage qu'il fallait lui rendre, et actuellement, d'ailleurs ça peut être un très beau cadeau de Noël, vous avez le livre de Jérôme Garcin, puisque Jérôme Garcin a épousé la fille de Gérard Philipe, et il a écrit un très très beau livre sur les derniers jours de Gérard Philipe, voilà. Et donc je vous disais qu'il faisait aussi du cinéma, et là je voudrais qu'on se focalise un tout petit peu sur un film qui était pas mal du tout. C'était un film franco-mexicain, Les Orgueilleux. C'était un film de Yves Allégret, qui est sorti en 1953, et qui avait été présenté au Festival de Venise, donc justement en 1953. Et alors, c'est intéressant, parce que vous savez bien que les gens de la Nouvelle Vague ont balayé tous ces gens-là. Voilà, tout d'un coup, ils arrivaient, poussez-vous que je m'y mette, quoi, c'était ça. Et là, il faut savoir que Les Orgueilleux, ce film donc de Yves Allégret, avec Gérard Philipe et Michel Morgan, c'est un film qui est admiré par Martin Scorsese. Martin Scorsese, il adore ce film. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une espèce de violence, mais aussi d'érotisme des scènes de Michel Morgan. Parce que Michel Morgan, qui est quand même considérée comme une comédienne assez froide, là, tout d'un coup, elle a très chaud, puisqu'on est en... D'ailleurs, il y a eu un interview où on lui disait, vous revenez du Mexique. Elle dit, oui, vous êtes très, très chaud. Donc, on sent tout le monde est moite, quoi. C'est très mouillé. Et en même temps, comme il fait très chaud, elle est sous sa moustique. bancaire, elle met son ventilateur sur ses jambes nues, voilà. Il y avait donc tout d'un coup une espèce d'érotisme de bon aloi et distingué, mais érotisme quand même, et c'est surtout là qu'il est peut-être le plus intéressant, et donc voilà, ça plaît beaucoup à Martin Scorsese. Alors, avant d'écouter la bande-annonce de ce film Les Orgueilleux, en deux mots, hein, je ne vais pas vous raconter le film parce que vous savez que je ne raconte jamais les films. Si vous voulez savoir l'histoire, il faut y aller. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est plutôt la façon dont il est écrit. Il faut quand même savoir que c'est une femme qui arrive donc avec son médecin au avec son mari qui est médecin au Mexique. Et quand elle arrive, il meurt tout de suite. Il est déjà très fatigué. Il meurt parce qu'il y a un virus qui le tue. Et donc, elle se retrouve seule parce qu'en plus de ça, on lui a piqué son portefeuille. Donc, elle est complètement paumée dans cet endroit. Et là, il y a un médecin qui est joué par Gérard Philippe, Poivreau au dernier degré, parce qu'il vient de perdre sa femme qui, elle est morte quand elle était en train d'accoucher, c'est lui qui l'a accouchée et apparemment ça s'est très mal passé, et donc il cède tout simplement avec de l'alcool, et donc il est très repoussant, il se lave pas, enfin, etc., etc. Et donc entre ces deux êtres il va y avoir quelque chose d'assez exceptionnel puisque ils sont vraiment complètement à l'opposé, mais je ne vous en dis pas plus. Alors je vous suggère tout de suite, on va écouter, je ne sais pas si tu es d'accord Stéphane, mais peut-être plutôt l'interview, ça te va? D'accord, ok, on y va. Donc l'interview de Gérard Philippe qui revient justement du Mexique.
Et nous avons retrouvé Gérard Philippe un peu barbu, mais en bonne santé. Parce que, pourquoi cette barbe? Je suppose que le personnage est barbu.
Oui, oui. Le problème était de me rendre plus marqué par les ans et par l'alcool, étant donné que je joue le rôle d'un ivrogne dans le film. Et Allégré, après plusieurs essais, a finalement décidé la barbe.
Et vous pensez que la barbe, dans le fond c'est très drôle, on représente souvent les ivrognes avec la barbe.
C'est exact, je suppose que les acteurs ont besoin d'être marqués pour paraître ivrognes.
Écoutez, ça a l'air un petit peu curieux que je vous pose cette question, mais comment avez-vous pu faire pour jouer votre rôle d'ivrogne? Ça doit être tout de même un drôle d'apprentissage.
Eh bien, je me suis souvenu des bonsoirs. Et puis, j'en ai pris quelques-uns.
Et vous êtes laissé aller.
Voilà, exactement.
Mais alors, en dehors de ce petit défaut, de ce grand défaut, quel est le...
Le péché mignon, eh bien, c'est l'orgueil.
Justement, le péché mignon. Vous appelez ça un péché mignon, vous.
Oui. Et c'est un orgueil, c'est un péché mignon, puisque finalement, le titre Les Orgueilleux ne reste pas, et que le film va s'appeler Alvarado, du nom du village dans lequel nous avons tourné, au bord de l'Atlantique, à côté de Veracruz.
C'est joli le Mexique.
C'est très beau, c'est très attachant, oui. Je crois qu'un Français peut très bien vivre au Mexique.
Qu'est-ce qui est impressionnant? Les couleurs, le climat, qu'est-ce qui change surtout avant tout? C'est un dépaysement complet.
Non, enfin oui, mais vite, on sent qu'à côté on peut vivre.
On s'adapte.
Oui, d'ailleurs c'est un phénomène curieux, les diplomates, la plupart... c'est un des pays où ils demandent leur...
De retourner?
Oui.
Et vous y retourneriez volontiers?
Ah oui, j'irai sûrement. Oui.
Alors, pour revenir au film, vous dites que l'orgueil du film est un péché mignon, or il est de coutume de dire que c'est un péché capital. Oui. Puis je vous demandais quelle forme d'orgueil il représente, car il y a plusieurs formes d'orgueil.
Oui, je ne saurais pas vous expliquer cela très précisément. Le fait est que ce sont deux personnages qui se rencontrent dans des circonstances qu'ils n'auraient jamais trouvé en France, et c'est la seule raison pour laquelle leur relation d'indifférente, par leur orgueil aussi, devient passionnée.
Est-ce que cet orgueil est répréhensible ou louable selon vous?
J'adore l'orgueil.
Voilà, donc j'adore l'orgueil. Ben écoutez, pourquoi pas? Oui, oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de défauts qui sont des qualités, évidemment. Et donc, voilà, c'est un film où, je vous le disais à l'instant, Les Orgueilleux, donc c'est un film franco-mexicain qui est réalisé par Yves Allégret. Il est sorti en 1953, donc l'interview date de 1953. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce film, surtout, c'est pour ça que je vous conseille de le voir, oui, en effet, Les Orgueilleux, parce que c'est l'ambiance, il y a une authenticité dans l'atmosphère. Ça, Yves Allégret a su parfaitement faire ça. Il y a une ambiance sonore, notamment, on va le voir dans la bande-annonce qu'on va écouter tout à l'heure, il y a des détonations de pétards, des tintements obsédants, des cloches, il y a... Parce qu'en plus de ça, on est dans la période du Vendredi Saint au Mexique, donc il y a la musique locale, on est dans, justement, il le disait, c'est la ville d'une bourgade d'Alvarado, je crois que c'est Alvarado, oui c'est ça, et donc on sent, voilà, on y est complètement, et en même temps ça apporte beaucoup, cette ambiance sonore, ça apporte beaucoup à l'étrangeté de la situation, avec notamment ces musiciens qui chantent, cette guitare, etc., etc. Et puis je le disais tout à l'heure aussi, au-delà de cette ambiance sonore, il y a une chaleur extrêmement moite. On sent que les pluies ne vont pas tarder et ça écrase les protagonistes et on le sent très très bien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une chape écrasante de la chaleur. Notamment, il y a même un moment, Nelly, donc Michel Morgan, marche, on voit elle laisse sur ses pas une trace moite, c'est pas... Voilà, c'est-à-dire que c'est ça, c'est tout d'un coup, on y est complètement et ça apporte évidemment beaucoup de réalisme et de réalité à l'histoire. Et puis, le contexte aussi historique et social est très bien dessiné. C'est vrai qu'on pense quand même beaucoup à Luis Buñuel. D'ailleurs, je crois que Buñuel faisait partie de l'équipe. Mais ça, je vous le dis sur la pointe des pieds, j'ai dû le lire, je l'ai parnoté. Je ne peux pas vous le dire avec précision, mais il me semble que c'est comme ça. Et puis cette petite ville, elle rappelle aussi un film dont j'ai parlé certainement ici, c'est Le Salaire de la Peur de Henri-Georges Clouzot, qui est tourné lui aussi en 1952. On est un peu dans la même veine. Hein. Voilà, donc voilà, il y a même aussi, je pense, avec cet ivrogne qui donc joué par Gérard Philippe, il y a quelque chose même qui rappelle un film de Howard Hawks, c'était Rio Bravo, un film de 1959, ou peut-être même aussi encore un autre film de Jules Dassin. Vous voyez, donc, on est quand même dans un contexte, enfin, en tout cas, dans des films qui ont de la gueule, quoi, qui s'imposent complètement. Voilà, donc, c'est un film, évidemment, que je vous recommande. Et donc, notamment, il y a une scène, je ne sais pas si on peut la retrouver, mais je pense qu'elle doit être quand même, elle doit figurer dans la bande-annonce. Je vous propose, Stéphane, si tu en es d'accord, on va s'écouter la bande-annonce. Vous allez voir, tout ce que je viens de vous dire, je pense que vous allez le ressentir dans cette bande-annonce.
Prochainement sur cet écran, Columbia Film SA aura le plaisir de vous présenter pour la première fois ensemble et dans un cadre inédit, Michel Morgan, plus émouvante que jamais, et Gérard Philippe qui a trouvé l'occasion de montrer une nouvelle face de son talent dans un film d'Yves Allégret, Les Orgueilleux.
Vous signez de rester tranquille?
Non.
Alors George, lave-toi les mains.
Il faut bien que ce soit pour vous, ma petite dame. Une belle crasse comme ça. On est pour 8 jours à la refaire.
Tourné dans un petit port du golfe du Mexique, ce film, riche en contraste, retrace l'aventure de Nelly, une jeune veuve, et de Georges, une locumène, une pauvre épave imbibée d'alcool.
Ça vous intéresse à qui est là-dedans? C'est ma femme. Maintenant, nous sommes voisins. Pas besoin de rendez-vous. Nous nous retrouvons ici tous les ans, à la Toussaint, avec notre géranium et notre petit arrosoir.
Du champagne à 80 pesos. J'espère que c'est la veuve qui paie.
Ne t'inquiète pas, elle est assez riche pour ça.
Elle? Riche? Oh, tu rigoles? C'est une putain.
Attention, je suis peut-être contagieux.
La santé aussi, ça s'attrape.
Me comprenez-vous un peu, mon père?
Poquito, poquito.
On avait volé son portefeuille. Vous venez de me le rendre. Ce sont ces petites choses, c'est rien, qui m'ont occupé depuis qu'il est mort.
Médecin. Il est venu ici il y a 5 ans. Il n'a pas tenu le coup contre la chalette. Je crois bien qu'il était sous le jour où il a accouché sa femme.
Je ne suis pas une femme confiante, Rodrigo. Ou alors il faudra le tuer avant. Et il y a un risque, c'est que je vous tue d'abord à coup de bouteille.
Vous viendrez voir prochainement dans cette salle Les Orgueilleux, le film qui a obtenu une des plus hautes récompenses au Festival de Venise 1953.
Voilà, vous venez d'entendre donc la bande-annonce du film Les Orgueilleux, un film franco-mexicain réalisé par Yves Allégret en 1953. Eh bien, vous l'avez entendu, il y a la musique, tout ce que je vous ai dit, mais il y a des acteurs qui sont particulièrement formidables parce qu'ils sont en transe. Et en plus de ça, ils sont presque dans des contre-emplois. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir Gérard Philippe, très digne, élégant, etc. Et là, c'est vraiment une épave. Oui, c'est un peu ça, et surtout à un moment, vous entendez, il chante, mais plutôt il danse. Il est dans un bar et il est soutenu d'ailleurs par des claquements de mains de l'assistance et il danse sur un air de Wapango. C'est interminable, c'est lancinant. Là, ce n'était que la bande-annonce, mais ça dure un moment dans le film. Et tout ça parce qu'il veut boire. On ne veut pas lui donner à boire parce qu'il est déjà ivre-mort. Et on lui dit, bah, t'as qu'à danser, tu auras de quoi boire. Et il danse. Et donc, il va danser, mais presque à la syncope. La syncope, mais de Gérard Philippe lui-même, quoi. Voilà. Donc, c'est un film qui est vraiment... très physique, hein. Et quant à Michel Morgan, ben c'est un peu pareil. À un moment, on doit lui faire une ponction lombaire. Je pense qu'on lui a pas faite, mais si vous voulez, elle a un jeu qui est très effrayant. C'est-à-dire, elle tout d'un coup, on voit les pupilles, les gouttes de sueur sur le front. Voilà, il y a tout ça. Et à la fin, quand elle se bat, parce que avec une bouteille, donc tout d'un coup, elle sort un peu de ses gonds. Et c'est pour ça que c'est pas uniquement, mais c'est aussi pour le jeu des acteurs. Ben, les jeux des acteurs, comme toujours, ils sont très bons parce que, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Oui, il y a Yves Allégret. Et Yves Allégret, ben là, on peut dire qu'il a cette férocité pour arriver à faire des choses formidables à ses comédiens, un peu à la Louis-Georges Clouzot. Je vous en ai déjà parlé sur ces ondes, hein. Louis-Georges Clouzot n'était pas un grand tendre, hein, voilà. On le lui a reproché quelquefois, mais en même temps, ça donne des résultats aussi, quoi. Voilà, donc Michel Morgan, quand elle se bat, elle est plaquée contre le mur, elle menace Rodrigo qui veut la violer, hein, avec une bouteille d'eau gazeuse, elle échange des coups, voilà. Et puis en même temps, tout d'un coup, après cette violence, lui, ça le calme, donc elle lui tend le miroir pour qu'il lui tienne le miroir et qu'elle puisse se coiffer devant le miroir. Voilà, c'est des choses assez intéressantes. Alors, quant au dernier plan du film, là, il est discutable. Parce que c'est pas exactement celui que Yves Allégret aurait voulu. Là, ça se termine en happy end. Bon, voilà, c'est parce que ce sont les producteurs mexicains qui le voulaient absolument. Donc Yves Allégret et le scénariste Jean Orange, qui est un nom très connu de cette époque-là, ils sont un peu en désaccord avec la partie mexicaine de la production, mais bon, c'est comme ça. Et donc, voilà, ils ont changé. Donc ça se termine avec un grand panoramique, avec sur un plan. Alors ils ont même fait, je crois, ce plan. Je sais pas si je vous le dis, je vous le dis parce que ça change rien, mais ils ont fait ça en studio parce que c'était un truc qu'on a rajouté à la fin, mais on y croit quand même, sauf que bon voilà, c'est une étreinte finale à l'américaine, dans un plan américain. Voilà, donc c'est vrai que Gérard Philippe ensuite a fait beaucoup d'autres films, hein, pas énormément puisqu'il est mort à 36 ans, mais il y avait notamment, peut-être que je vous parlerai la prochaine fois, d'un film de René Clair de 1955, donc c'était avant, non juste après, pardon, j'ai dit des bêtises, c'était Les Grandes Manœuvres, ça aussi, hein. René Clair, je veux dire. Là aussi, René Clair, c'est quelqu'un qui a été balayé par la nouvelle vague. C'est quand même dommage, quoi, parce que c'est quand même des gens, Claude Autant-Lara et tout ça, c'est quand même des gens qui ont fait des films formidables, et de temps en temps, c'est bien d'en reparler. Si vous vous intéressez au cinéma, c'est quand même la base de savoir un peu d'où il vient, ce cinéma. Il vient de là aussi, voilà. Bien, ben Stéphane, je crois qu'on a fait le tour, on a fait le tour de la question, parce que Gérard Philippe, on peut toujours en parler, on pourrait même y réécouter... des tas d'extraits de son film, parce que je vous le dis, par sa présence, par son élégance, par le timbre de sa voix, par la façon même dont il s'exprimait, bon, il y avait quelque chose qui n'appartenait qu'à lui, et ça, c'est formidable. Bon, ben, on vous réécoute cette émission ce soir, et sinon, ben, nous nous revoyons la semaine prochaine.
vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.